être compatient et se dire oui à tout.
On associe souvent la compassion au fait d'être toujours gentil, mais est-ce que c'est vraiment cela?
Eh bien, imaginons un peu la scène. Il pleut des cordes, on est vraiment épuisé après une semaine de travail interminable.
Ah oui, le grand classique. On n'a qu'une seule envie.
Exactement. Rentrer et se mettre au chaud. Et là, paf, on reçoit un message pour ce fameux dîner à l'autre bout de la ville.
Un dîner auquel on a absolument, mais alors absolument aucune envie d'aller.
Mais aucune! Sauf que notre main tremble un peu sur le téléphone et on finit par taper « Oui, bien sûr, avec grand plaisir, à tout de suite ».
Ouais, on connaît tout ça.
Et sur le moment, on a vraiment l'impression d'être une personne admirable. Tu sais, quelqu'un qui fait des sacrifices pour ne pas décevoir les autres.
Votre définition moderne et très sociale de la gentillesse fait souvent totalement fausse route.
Et c'est justement la mission de cette exploration en profondeur.
Voilà. Et d'ailleurs, quand on parle du dharma ici, il faut bien préciser qu'on ne parle pas de dogme magique ou de croyance mystique.
C'est très pragmatique, en fait.
Tout à fait. C'est une sorte de mode d'emploi de notre propre esprit. Une étude très précise des lois naturelles qui régissent nos comportements, nos souffrances et, bien sûr, nos relations.
C'est une excellente précision. L'objectif aujourd'hui, c'est donc de déconstruire pour de bon ce mythe extrêmement tenace. Pour tous ceux qui cherchent à mieux comprendre leurs propres réactions face aux autres.
Parce qu'on ressent tous cette pression terrible, cette pression d'être la bonne personne.
Celle qui ne froisse jamais personne, qui arrondit toujours les angles.
Et c'est une pression qui repose sur une énorme confusion de termes. On s'imagine à tort que la compassion, c'est l'absence totale de vagues.
C'est-à-dire dire oui systématiquement, fuir le conflit à tout prix.
C'est ça. Refuser de se positionner par peur de créer la moindre tension et par-dessus tout, ne jamais risquer de blesser qui que ce soit.
Sauf que,
si l'on suit la mécanique de l'esprit décrite dans ses enseignements, eh bien, cette attitude d'effacement perpétuel, ce n'est absolument pas de la compassion. C'est même très souvent l'exact opposé.
Reprenons un exemple simple du quotidien.
Vas-y.
On est au bureau, il est 17h30 passé, on est déjà complètement sous l'eau avec nos propres urgences, et là, un collègue arrive, l'air un peu paniqué, et nous demande de reprendre une partie de son travail parce qu'il doit filer.
Aïe, la fameuse boule au ventre instantanée.
Mais oui, on n'a ni le temps, ni l'énergie, et on sourit mécaniquement en lâchant « Pas de problème, laisse ça là, je m'en occupe
».
Alors, si ce n'est pas de la compassion envers un collègue en détresse, qu'est-ce que c'est au juste?
En fait, il faut regarder ce qui se passe vraiment sous le capot, dans l'intimité de notre esprit à ce moment précis. Derrière cette gentillesse de façade, il y a des motivations cachées.
Des motivations qui ne sont pas si nobles.
Pas du tout. Elles sont même aux antipodes de l'altruisme. Ce qui motive ce grand oui de fin de journée, ce n'est pas l'amour de l'autre ou le désir sincère de l'aider, c'est la peur.
La peur de quoi? De déplaire?
Exactement. C'est la peur viscérale de déplaire. L'angoisse d'être rejeté par ce collègue, de passer pour le méchant de service. Ou alors, c'est un besoin profond, presque enfantin, d'être aimé et d'être validé par le groupe.
Donc, en croyant agir pour l'autre, on met en fait en place une stratégie de survie sociale pour soi-même.
C'est tout à fait ça.
L'autre n'est finalement qu'un instrument pour calmer notre propre angoisse.
Ouais. C'est une mécanique purement égocentrique. On veut la petite étiquette dorée de quelqu'un de bien. L'ego veut surtout éviter l'inconfort redoutable d'une confrontation.
Ou le regard déçu de l'autre. Ça, c'est terrible.
Ah, ça, l'ego déteste chi. En disant « Oui, ce n'est pas le collègue qu'on aide, c'est notre propre peur du conflit qu'on fuit. On maquille une simple faiblesse personnelle, une incapacité à dire non, en vertu morale éclatante. »
Waouh, l'ego est vraiment très fort pour ça. Il adore se déguiser en saint pour ne pas avoir à affronter ses peurs.
Oui, il est redoutable.
Mais du coup, puisque c'est notre ego qui prend ce dossier en fin de journée pour se rassurer, j'imagine que les conséquences à l'intérieur de nous sont désastreuses.
Ah, le coût psychologique est immense.
C'est comme un contrat rédigé à l'encre invisible. On dit oui pour rendre service, mais en réalité, on fait signer à l'autre une dette implicite.
C'est une excellente façon de le formuler.
Genre, je te donne mon temps, mais en échange, tu me dois de la gratitude, tu me dois une validation permanente.
Et si l'autre ne paye pas cette dette imaginaire, alors là, la machine déraille complètement. C'est une transaction commerciale avec des attentes cachées. Et il se passe quelque chose de très destructeur en nous.
On s'épuise.
On s'épuise totalement. On commence à accumuler une frustration sourde et un sentiment très pernicieux s'installe. On a soudainement l'impression d'être utilisé par la terre entière.
Ah, la fameuse plainte. Je suis trop gentille. On a encore profité de moi.
Voilà, le grand classique du « je me fais toujours avoir ». Ces phrases éclatent au grand jour, précisément quand la coupe de la frustration déborde.
Mais attends, je vais me faire un peu l'avocat du diable une seconde.
Je t'en prie.
C'est bien beau en théorie, mais physiquement, si je passe tout mon dimanche à porter les cartons d'un ami au 6e étage sans ascenseur, je vais être épuisée, j'aurai mal au dos.
Bien sûr.
On a cette idée très ancrée que la vraie compassion, l'altruisme véritable, c'est le sacrifice. Si je me donne pour les autres, n'est-il pas tout à fait normal d'en souffrir un peu ?
Ce qui est fascinant ici, c'est la distinction fondamentale que font les enseignements entre la fatigue physique et l'épuisement psychologique. Le Dharma renverse complètement cette idée de sacrifice douloureux.
Ah oui, donc la fatigue n'est pas un problème en soi.
Pas du tout. Si tu aides ton ami à déménager, la douleur musculaire, c'est juste dès la biologie. Cette fatigue-là est saine, elle disparaît avec une bonne nuit de sommeil.
D'accord, je vois la nuance.
Par contre, si en portant ces fameux cartons, tu ressors avec de l'amertume, si tu te dis intérieurement « il a intérêt à m'inviter au respo après ça » ou « je fais toujours tout pour les autres et on ne me renvoie jamais l'ascenseur »,
c'est là que ça coince.
Exactement. Cette souffrance-là n'a rien de biologique. Le texte est catégorique là-dessus. Si l'on souffre de sa propre compassion, c'est la preuve absolue que ce n'est pas de la compassion.
C'est fort, ça. La souffrance n'est donc pas une médaille de courage, mais plutôt le signal d'alarme d'un conflit intérieur.
C'est le mot juste. Un conflit intérieur parfois très brutal. C'est la friction entre l'image idéale que l'on veut projeter au monde, le masque du sauveur, toujours disponible, et nos propres limites humaines.
On se fait violence à soi-même pour maintenir une illusion de perfection morale.
Exactement. On ne souffre pas à cause de l'autre qui nous aurait prétendument exploité. On souffre du décalage énorme entre ce que veut notre ego et ce que notre esprit peut réellement supporter.
Ça change complètement la donne. On a tellement l'habitude de pointer l'autre du doigt. On se dit « Ah, il a abusé de mon temps !»
Alors que c'est nous-mêmes qui avons laissé la porte ouverte par peur.
Et ensuite, on en veut au vent d'être entré. C'est ça?
C'est exactement pour cela que dans la véritable compassion, il n'y a pas la moindre place pour la frustration ou le sentiment de victimisation, car elle n'est plus mélangée à l'ego.
Elle n'est plus transactionnelle.
Voilà. Quand tu agis avec une compassion authentique, tu n'attends pas de retour sur investissement.
D'accord, mais là, ça soulève un gros risque d'incompréhension.
Lequel?
Si cette fausse compassion crée tant de dégâts internes et que la vraie demande de se détacher totalement de notre ego, ce qui semble, soyons honnêtes, presque impossible pour la plupart d'entre nous au quotidien, on pourrait vite être tenté de se dire « Bon, puisque ma gentillesse est égoïste, eh ben je n'aide plus personne. Je deviens froide, égoïste, et au moins je serai en paix. »
Ouais, le fameux piège de l'indifférence.
Comment on trouve l'équilibre sans devenir un bloc de glace fiatier ?
C'est là qu'intervient le deuxième pilier essentiel dans le bouddhisme. La compassion n'est jamais, absolument jamais abordée seule. Elle est toujours indissociable d'une autre qualité.
Qui est ?
La sagesse, le discernement. Sans cette clarté de la sagesse, la compassion devient complètement aveugle. Elle devient cette gentillesse molle, maladroite et bien souvent très nuisible.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on voit bien comment une gentillesse sans discernement peut faire des ravages.
Tu as l'exemple en tête ?
Oui. Pensons simplement à l'éducation. Imaginons un jeune enfant qui fait une crise colossale parce qu'il veut manger plein de sucre avant de dormir.
Ah, la crise du soir. Classique.
Voilà. Si le parent épuisé cède pour arrêter les pleurs et éviter le conflit, il croit peut-être agir par bienveillance. Mais en réalité, il est juste faible face au bruit. Il achète sa propre tranquillité au détriment de la santé de l'enfant. La véritable compassion ici, c'est d'avoir la sagesse de dire un non ferme.
C'est exactement ça. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, cet exemple de l'éducation s'applique à absolument toutes nos relations adultes.
C'est-à-dire ?
Être compatient, ce n'est pas chercher à être agréable, c'est chercher à être juste. Et la justesse requiert un discernement parfois tranchant.
Donc, dire oui à un ami qui a un comportement destructeur pour ne pas le froisser, c'est en fait le conforter là-dedans.
Oui. Dire oui à un collègue toxique, c'est encourager un système dysfonctionnel. C'est pour ça que la véritable compassion demande un immense courage.
Le courage d'affronter l'inconfort de l'autre, sa déception, tout en gérant notre propre peur de ne plus être aimé.
On est très loin de l'image de la compassion douce et passive. C'est une compassion lucide, protectrice. Dire non peut être profondément bénéfique pour soi comme pour l'autre.
D'accord, je comprends le non structurant pour un ami ou un collègue. Mais poussons la logique plus loin.
Allons-y.
Qu'en est-il face à des personnes qui sont ouvertement malveillantes? Des personnes qui nous font du tort délibérément? Les textes affirment que la compassion s'étend à tous les êtres, sans exception.
C'est vrai.
Mais comment garder de la compassion face à quelqu'un d'agressif sans se transformer en paillasson? On ne va pas se laisser faire sous prétexte d'être compatissant.
Non, bien sûr que non. Et c'est indéniablement la nuance la plus complexe du texte. On confond souvent compassion et passivité dangereuse.
Exactement.
Le texte met en lumière un équilibre parfait, résumé par une formule très simple. Ni colère, ni naïveté.
Ni colère, ni naïveté. Donc, on refuse de se laisser empoisonner de l'intérieur par la rage, tout en refusant d'être aveugle à ce qui se passe.
C'est ça. Habituellement, on a deux options. Soit on réagit avec agressivité et on s'empoisonne avec la colère.
Soit on subit naïvement en se répétant « je dois être gentil, je dois être spirituel ».
Voilà, la fameuse soumission. Mais la voie de la sagesse propose une troisième option. On garde le cœur ouvert, on souhaite que cette personne se libère de son ignorance, tout en posant une action ferme et inébranlable pour l'empêcher de nuire.
On confond continuellement compassion et soumission, alors que ce sont deux choses radicalement différentes.
Diamétralement opposées même. La soumission naît de la peur, la vraie compassion naît du courage et d'une grande clarté d'esprit. On peut dénoncer une injustice avec une compassion immense, sans une once de haine.
C'est un idéal grandiose. Mais en toute honnêteté, ça donne un peu le vertige, non?
C'est sûr que c'est exigeant.
Garder un cœur bienveillant, tout en posant des limites fermes, sans égo, sans colère, c'est le niveau olympique de la psychologie humaine. Comment on peut espérer atteindre ça sans se décourager face à nos propres erreurs au bout de deux jours?
C'est là qu'il faut se rassurer. Les textes ne demandent pas la perfection immédiate. Cette confusion qu'on fait tous entre compassion et soumission, ce n'est pas une faute grave.
C'est juste normal.
C'est une étape. Ça correspond simplement à notre niveau de pratique actuel. On ne se reproche pas de ne pas savoir courir un marathon sans entraînement. Eh bien, pour l'esprit, c'est pareil.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Qu'on ne doit pas culpabiliser de se forcer un peu, parfois?
Cela soulève une question importante. Il faut une honnêteté radicale avec soi-même. La compassion authentique est rare. Elle se développe avec le temps.
C'est un apprentissage.
Oui. Au début, on se force un peu. C'est comme apprendre le violon. Au début, on grince. La posture est crispée. On imite l'attitude. Et c'est très bien comme ça. Ne nous jugeons pas pour ces grincements.
Donc, plus on s'entraîne, plus ça devient naturel.
Exactement. Plus on observe notre ego, plus il diminue. Et plus il diminue, plus cette compassion pure prend la place. Elle finit par s'étendre à tous les êtres, sans exception, parce qu'elle devient notre vraie nature.
Et donc, avant de vouloir sauver le monde entier, la première étape, c'est de reconnaître honnêtement où on en est, sans honte.
Si aujourd'hui je dis oui par peur du conflit, eh bien je l'observe. Je l'accepte et j'essaie de faire un millimètre de mieux demain.
Eh bien, ça allège drastiquement la pression du quotidien. Être compassif n'est décidément pas dire oui à tout. C'est une démarche lucide, courageuse, indissociable du discernement, où le mot « non » a toute sa place.
Absolument toute sa place.
Comprendre cela permet de sortir du cycle toxique du trop gentil frustré et de protéger son énergie tout en restant fondamentalement bienveillant.
Tout à fait.
Et pour clore cette exploration sur une réflexion à méditer, si la véritable compassion exige parfois le courage de dire non aux autres pour être juste, le chemin vers cette compassion authentique ne commence-t-il pas, paradoxalement, par le courage d'apprendre à dire non à notre propre ego ?